France Info. Le micro européen avec aujourd'hui le Conseil de l'Arctique. Bonjour Laurent Maillet.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe de réflexion Le Cercle Polaire. Vous avez été représentant spécial de la France pour les pôles et vous avez représenté la France à ce fameux Conseil de l'Arctique qui comprend, José-Emmanuel Lamarck, donc des États européens membres et non membres de l'Union européenne.
Bonjour Bernard Thomasson. Oui, exactement. États membres et non membres et tous les États qui bordent l'Arctique. Mais Laurent Maillet, le Conseil de l'Arctique, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Alors, le Conseil de l'Arctique, on peut rappeler que c'est à peu près l'unique enceinte dans laquelle on discute des questions arctiques au sens régional, c'est-à-dire la région arctique.
C'est un forum intergouvernemental, c'est ça?
Alors, ce sont des gouvernements qui sont associés à ce forum, les 8 gouvernements de la zone arctique. Les 5 pays riverains que sont la Russie, la Norvège, le Canada, les États-Unis par l'Alaska et le Danemark par le Groenland. Et puis 3 autres pays de la zone arctique mais qui n'ont pas de côte sur l'océan arctique que sont la Finlande, la Suède et l'Islande.
Officiellement, le Conseil de l'Arctique, Laurent Maillet, c'est 1996.
Absolument. Déclaration d'Ottawa. Il faut garder à l'esprit pour comprendre l'Arctique, me semble-t-il, que le Conseil de l'Arctique, c'est une création post-guerre froide. On a eu à cœur de conjurer le niveau de tension stratégique que la zone a connu pendant plusieurs décennies.
Et dans ce Conseil, Laurent Maillet, sont représentés aussi des peuples autochtones tels que les Inuits, qu'on connaît bien, mais aussi les Samis de Laponie ou encore des peuples de Russie, moins connus.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent cité comme l'originalité de ce Conseil. Autour de la table, vous avez bien les 8 pays, plus les organisations autochtones que vous avez mentionné et quelques autres et qui sont toujours associés aux décisions que les 8 pays prennent concernant la région arctique.
C'est leur reconnaissance, mais alors aujourd'hui la question de l'Arctique et la question du réchauffement de la planète, on imagine que ces membres actuels du Conseil de l'Arctique, eux, sont en train de travailler sur les questions environnementales, mais peut-être pas seulement.
Alors, vous avez tout à fait raison de le citer parce que l'environnement et la cause autochtone, on va dire, sont les deux sujets sur lesquels on a créé le Conseil de l'Arctique à ses débuts. Aujourd'hui, l'Arctique est devenu une conjoncture beaucoup plus complexe. Vous le savez, il y a des enjeux gaziers, pétroliers, il y a des enjeux de ressources naturelles vivantes, il y a des enjeux également d'équilibrage politique en matière de réglementation. Enfin, c'est devenu une zone assez complexe. Mais en effet, l'environnement reste en principe au cœur des préoccupations de l'Arctique, qui s'interdit d'envisager le développement de cette zone, ou en tout cas de la périphérie de cette zone, autrement que dans un modèle de développement durable.
Et il y a aussi des membres observateurs, comme l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, c'est la Suisse, et puis d'autres États comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. Pourquoi ?
Alors, avant que l'Arctique ne devienne un pseudo-Eldorado gazier, pétrolier, etc., l'Arctique a été une zone de coopération internationale
Scientifique,
absolument.
Oui, scientifique.
Exploration, géomagnétisme, dès la fin du XVIIIe siècle. Ce qui s'est passé relativement récemment, c'est que lorsqu'il s'est agi de savoir qui pouvait être intéressé ou qui avait voix au chapitre, eh bien c'était les pays qui avaient des activités scientifiques historiques, des expéditions, vous venez de les mentionner. Aujourd'hui, pour une autre partie, ben ce sont des pays qui se projettent à la fois pour des activités commerciales ou des accords économiques. Si on pense à la Chine, l'Arctique pour la Chine, c'est vraiment la possibilité désormais de relier l'Europe via la route maritime du Nord.
Ah oui, là c'est donc la route la plus courte, on ne passe pas par le canal de Suez.
Voilà, c'est la communauté internationale directement intéressée par les affaires arctiques.
Et Laurent Maillet, dernièrement le secrétaire d'État américain en Islande, avait fait une déclaration qui nous rappelait un peu l'époque de la guerre froide. On sent bien cette opposition États-Unis, Russie et Chine aussi. Est-ce que là, l'Europe ne ferait pas tampon, sortir de ce marasme qui risquerait d'être une nouvelle guerre froide en Arctique?
C'est le point sensible, vous avez mis le doigt sur le sujet qui fâche, puisque l'Union européenne, qui a non seulement des États membres observateurs au Conseil arctique, qui a des peuples autochtones arctiques européens, vous les avez nommés, les Samis, qui est le premier bailleur de fonds pour la recherche scientifique, premier acteur commercial dans la zone arctique, etc., eh bien, ne parvient pas à obtenir ce statut d'observateur. En revanche, là où la situation se complique, au Conseil arctique, au plan politico-stratégique, il y a 7 pays directement liés à l'OTAN, et puis la Russie en face, eh bien la Russie se retrouve à nouveau assez isolée. Mais tout le monde convient, parce que c'est ça la diplomatie, tout le monde convient de ce que nous sommes les meilleurs amis du monde et que nous allons dépasser ces tensions, alors que nous savons qu'elles n'ont jamais été aussi tendues.
Eh bien, merci pour cet éclairage, Laurent Maillet. Je rappelle que vous êtes président du groupe de réflexion Le Cercle Polaire et ancien représentant spécial de la France pour les pôle.
Merci à vous.
Il faut dire que de l'Arctique, donc on l'a bien compris, dépend notre futur climatique. Il faut le protéger un petit peu, José Manuel, comme on protégerait sa mère.
Exactement.
À la
Bernard
semaine prochaine, en tout cas.
À la semaine prochaine, Bernard.